Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Jérusalem, au temps de Jésus, c'est la série d'émissions que nous vous proposons de suivre pendant ces trois dernières semaines de carême. Nous sommes entrés lors de l'émission précédente à Gethsémani, puis nous avons gravi le mont des Oliviers et enfin nous avons parcouru la vallée du Cédron. Je vous propose aujourd'hui de faire l'ascension du mont Sion et nous pénétrerons ensuite au Cénacle. Frère Dominique Marie Cabaret, bonjour.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes dominicain de la province de Toulouse, vous avez vécu 10 ans à Jérusalem, vous avez été chargé du cours de topographie et d'histoire du Proche-Orient ancien à l'école biblique et archéologique de Jérusalem. Vous nous emmenez pour commencer sur le mont Sion, c'est un des monts qui entoure Jérusalem, qu'a-t-il de particulier ?
Alors c'est la colline la plus haute de Jérusalem, donc dans la vieille ville actuelle et en dehors de la vieille ville actuelle, parce qu'une partie du mont Sion est en dehors de la vieille ville actuelle, enfin ou plus même plus exactement, ce qu'on appelle vraiment le mont Sion, c'est en dehors de la vieille ville, mais c'est quand même le point culminant qui est donc du côté ouest et un point qui en fait est dans a été urbanisé, quand on regarde l'histoire de la ville de Jérusalem, que relativement tardivement. Alors, quand je dis ça, c'est relatif, puisque c'est donc avant Jésus-Christ qu'il a été urbanisé, mais ça signifie que la ville primitive était en fait sur la colline orientale, qui est bien plus basse, qui est en dessous de l'esplanade du temple ou l'esplanade des mosquées actuelles. Et donc là, c'est une colline qui est plus haute. Et donc, dans les écrits, par exemple, de Flavius Joseph, cet endroit est décrit comme la ville haute. Hein, et donc, sur laquelle, d'ailleurs, Hérode, donc au cours de son règne, va construire son palais. Et donc, dans un endroit qui domine, et qui va d'ailleurs devenir à l'époque de Jésus, en raison d'ailleurs très vraisemblablement du palais d'Hérode, un lieu plutôt aristocratique, avec des belles demeures, et qui donc est tout à fait idoine, enfin, à avoir reçu l'habitation des familles sacerdotales, des grandes familles sacerdotales. Et c'est d'ailleurs pour ça que sur le mont Sion, ou en tout cas sur la pente du mont Sion, il y a donc la vénération possible de ce qu'on appelle donc le moment où Jésus a été arrêté et où, avant que le coq ne chante et où il a passé sa dernière nuit, donc ce lieu qu'on appelle Saint-Pierre et Gallicante, hein, le coq qui chante.
Le lieu de la trahison de Pierre.
Voilà, le lieu de la trahison de Pierre.
Dans cette cour
Voilà, alors dans cet endroit qui est sur le ouais. Donc c'est le pèlerin de Bordeaux qui écrivait au 4e siècle, enfin en 1333, en parle. Donc c'est un lieu qui est vénéré depuis les temps anciens et c'est un fait que l'archéologie a pu retrouver en tout cas des constructions typiques juives avec en tout cas des mikvés et des choses comme ça qui montrent que l'habitat était juif et en tout cas un bel habitat.
Un bel habitat. Vous avez dit, frère Dominique Marie, que c'était l'endroit où il y avait le palais d'Hérode. Pilate y a séjourné pendant justement les fêtes pascales.
Oui, c'est tout un débat parce que l'histoire, oui, il est clair que Pilate, à mon avis, y a séjourné parce qu'on voit dans les écrits de Flavius Joseph que les successeurs de Pilate vont y séjourner et même ils vont y rendre justice. Alors, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. C'est que donc, selon toute vraisemblance, le prétoire où Jésus donc, a été jugé par Pilate, donc, qui est une sorte de palais de justice de l'époque et qui était un lieu consacré. Et on voit dans l'évangile de Jean qu'il y a une salle dans laquelle on entre, dont on sort, dans laquelle on réentre, etc. Donc tout un mouvement qui montre qu'il y a une pièce. Eh bien, très vraisemblablement, c'était là. Et donc, ceux qui connaissent Jérusalem peuvent éventuellement tiquer parce que donc, je croyais que l'endroit où Jésus avait été jugé, c'était l'Antonia de l'autre côté de la ville et au début de la Via Dolorosa actuelle. Oui, mais il se trouve que la Via Dolorosa actuelle a été fixée après les croisades et que donc, c'est pas du tout assuré. Et qu'il y a, selon moi, donc de plus grandes vraisemblances, et donc notamment, enfin, je n'entre pas dans le détail, ça serait trop compliqué, pour que le jugement de Jésus se soit passé dans l'ancien palais d'Hérode, puisque donc lorsque Jésus donc a été jugé et mort et ressuscité, eh bien, c'était bien après la mort d'Hérode le Grand, donc en moins 4 avant Jésus-Christ.
Ce mont Sion, il est, au temps de Jésus, il y a d'épaisses murailles qui enserrent Jérusalem et le mont Sion, il est à l'extérieur de ses remparts.
Alors,
là
oui.
Aussi, il y a...
Non. Alors, il est à l'extérieur des remparts, mais à l'époque de Jésus, a priori, il est dans les remparts.
Il est dans les remparts.
Mais il est un fait qu'en 70, les remparts vont être détruits et qu'il va y avoir après la fortification d'un camp romain, la fortification aussi après de la colonie romaine. Et là, c'est là que la muraille de la ville va passer au milieu du mont Sion, laissant en dehors la partie qui est aujourd'hui vénérée comme le Cénacle, où se trouve le Cénacle, et qui est aussi donc l'endroit où se trouve le, selon donc une tradition qui est assez récente, la tombe de David.
Voilà, alors justement, on va aborder ce sujet-là, puisque cette tombe de David, déjà dans l'Écriture, le nom de Sion est mentionné pour la première fois dans le deuxième livre de Samuel. David prit la forteresse de Sion, c'est la ville de David. Quels sont les vestiges qu'on a retrouvés de cette époque ?
Eh bien, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la ville de David elle-même, en fait, elle est en contrebas, elle n'est pas sur le mont Sion. Et donc, en fait, la colline dont on parle, qui est la ville haute, et que Flavius Josèphe n'appelle jamais mont Sion, mais appelle ville haute, eh bien, en fait, c'est une appellation tardive qui date donc d'une erreur chrétienne, du début de l'ère chrétienne, où parce que c'était la ville la plus haute et parce qu'il y a un passage de l'Écriture où on semble distinguer deux collines qui restent en ruine, etc., eh bien, en fait, il va avoir cette fausse perception que la colline haute, c'est le mont Sion. Alors que donc, dans le passage de la Bible que vous venez de citer, eh bien, en fait, justement, la ville de Sion, c'est celle qui est en bas, qui est en contrebas du temple et qui est donc cernée par la vallée du Cédron à l'Orient et la vallée du Tyropéon à l'Occident. Et donc, c'est une langue, c'est assez petit. Et c'est là que David a été enterré. Il a été enterré dans Sion et pas du tout sur la colline haute dont on parle. Même si aujourd'hui, c'est le lieu où les Juifs vénèrent ce tombeau, mais on sait, on comprend comment ça s'est passé. Et c'est assez tardif d'ailleurs, parce que donc, ça vient aussi, principalement, ça vient d'une erreur musulmane qui, sous Soliman le Magnifique, a attribué ce lieu-là. Et finalement, l'erreur est restée, qui fait que, voilà, donc aujourd'hui, comme diraient certains, c'est bien qu'on vénère la tombe de David à un certain endroit. Mais en tout cas, ce n'est pas l'endroit historique. Alors, c'est un fait que dans la ville basse, donc dans la ville historique de l'époque de David, eh bien, il y a eu des recherches pour trouver le tombeau de David. Et là, pour le coup, on ne l'a pas trouvé. Et sachant que les lettres de Pierre en parlent. La tombe de David qui est encore parmi nous. Et
donc ça voudrait dire que les apôtres auraient pu se recueillir sur cette tombe de David ?
Non, pas l'endroit où c'est actuellement, oui, parce qu'en plus, on dit que Hérode ou d'autres, les Asmonéens, ont pris les richesses qu'il y avait dans le tombeau de David, les trésors, pour justement financer certaines parties de ce qu'ils prévoyaient en tant que souverain. Bon, et c'est aussi un peu sans doute le fantasme qui a été pris par les musulmans et qui fait qu'il fallait aller absolument... Donc quoi qu'il en soit, c'est une fausse tradition, même si je respecte parfaitement le fait que les Juifs puissent vénérer en ce lieu haut la tombe de David. Mais quoi qu'il en soit, c'est aussi le même endroit où les chrétiens vénèrent la dernière scène et aussi un autre moment très important de l'Église, qui est la Pentecôte.
Voilà, alors tous ces événements, effectivement, nous allons en parler dans la deuxième partie de notre émission, mais je voudrais quand même vous interroger sur l'abbaye de la Dormition, parce que là aussi, c'est sur le Mont Sion.
Oui, alors ça rejoint un peu ce qu'on avait dit la semaine dernière. Oui, selon la tradition de l'Église, de Jérusalem, pardon, la Vierge Marie est morte, donc au sens comme son fils hein, est mort, à Jérusalem, et donc elle avait pris ses quartiers dans la ville haute, et avec donc une tradition qui, non loin du Cénacle, ou même peut-être à l'endroit du Cénacle, et donc c'est pour ça qu'on vénère aussi à cet endroit-là, l'endroit où la Vierge Marie a connu ce passage, donc mystérieux vers la mort, donc, et donc selon la tradition de Jérusalem, elle est vraiment morte, donc le Transitus Mariae, hein, dont j'ai parlé la semaine dernière, et après, son corps a été mis dans un tombeau, selon la tradition de Jérusalem, situé tout à côté de Gethsémani. Et donc, selon la tradition de Jérusalem, eh bien, au bout de quelques jours, son corps a été donc,
élevé au ciel.
Donc, son corps non corrompu, en vertu donc de son immaculée conception, si on peut parler comme ça, même si ce n'est pas théorisé comme ça dans le Transitus Mariae, évidemment. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est un tombeau vide qu'on vénère dans la vallée du Cédron, hein, donc à côté de Gethsémani. Mmh.
Mais il y a quand même y a eu une église byzantine qui a été construite sur ce lieu-là de la Dormition.
Alors oui, alors ça, donc là, on touche donc aussi une autre question, c'est-à-dire que donc c'est un point un peu compliqué au sens où quand on est obligé de raisonner un peu par pas par l'absurde, mais en regardant d'autres données, c'est que quand Constantin donc a ordonné la construction d'églises à Jérusalem, donc au début du IVe siècle, en fait, il en a décidé trois, mais pas sur le Mont Sion.
Ah.
Une donc au Saint-Sépulcre, une sur le Mont des Oliviers et une à Bethléem. Et donc ce vide par rapport au Mont Sion, en fait, était une attestation, d'une certaine manière, qu'il y avait déjà quelque chose et qu'il n'y avait pas besoin de construire quelque chose. Et en fait, ça vient aussi de témoignages, notamment d'un évêque qui s'appelle Epiphane de Salamine, qui était donc Salamine, c'est à Chypre, donc en fait, qui était natif de la région, hein, à 30 km de Jérusalem, donc il connaissait bien tout le quartier, et qui atteste qu'il y avait sur le Mont Sion, en fait, une église. Et il y a eu des fouilles qui montrent qu'il y avait peut-être une synagogue, une niche en tout cas tout à fait caractéristique d'une synagogue, alors qui, bizarrement, n'était pas tournée vers le temple, mais plutôt tournée vers le Saint-Sépulcre. Donc, à l'époque, le Saint-Sépulcre n'existait pas. Donc, vers l'endroit où Jésus était mort et ressuscité. Oui. Et vous imaginez bien que les premiers chrétiens n'avaient pas la liberté de construire quoi que ce soit sur l'emplacement de la mort et de la résurrection de Jésus. Et qu'ils aient construit un premier lieu de prière, comme l'atteste la Pentecôte, le fait qu'il y a eu des prières, sur l'emplacement dans la chambre haute, et que ça soit resté un lieu chrétien, donc comme une première, entre guillemets, église, synagogue-église, la mère des églises, la première église. Et on pourrait dire, mais en touchant un anachronisme évident, la cathédrale de Jérusalem, la première église, la plus importante, et où il y avait, donc, selon la tradition, donc après, parce qu'il y a une église qui a été reconstruite un peu plus tard, à la fin, donc très vraisemblablement du IVe siècle, sous sans doute l'empereur Théodose, mais là, donc il faut être très prudent, une église beaucoup plus importante et donc qui est dédiée aux apôtres. Et en tout cas, dans ce lieu, il y avait un diaconicon où il y avait donc les reliques principales chrétiennes qui étaient conservées et aussi des symboles donc très, très, très forts pour l'église de Jérusalem, notamment le trône de Saint-Jacques.
Ah. Hein,
donc, Jacques le Mineur, le premier évêque, enfin, l'un des premiers évêques de
Jérusalem.
Enfin, oui, quand je dis le premier évêque de Jérusalem,
Jérusalem,
donc
ouais.
Le frère de Jésus, hein, Jacques le Mineur, pas Jacques le Majeur dans la tradition de Saint-Jacques le Compostelle. Et donc, selon la tradition, les premiers évêques de Jérusalem étaient des gens de la famille de Jésus. Hein.
Et, c'est celui qui a demandé, dont la mère a demandé à être.
Non.
À droite de Jésus, non, justement.
Non,
c'est
non, ça, hein. c'est les fils de Zébédée.
Ah oui, c'est donc les fils de Zébédée, pardon.
C'est
ouais,
justement
oui,
Jacques le Majeur,
voilà.
qui a aussi été persécuté,
Jacques.
Mais donc là, Jacques le Mineur, a priori, a été mis à mort en 62 après Jésus-Christ, lors d'un moment où le procurateur venait de mourir soudainement, et donc il y a une vacance du pouvoir romain, et le grand prêtre Annan de l'époque, eh bien, en a profité pour mettre à mort cette grande personnalité, cette forte personnalité qui était très respectée de Jacques le Mineur. Alors, il y a des traditions, il y en a qui discutent aussi, etc., etc. Je n'entre pas dans le détail, ça serait trop compliqué. Mais quoi qu'il en soit, il y a une tradition de Jérusalem qui va dans ce sens.
D'accord. Donc ça, c'est pour le Mont-Sillon. Je vous propose qu'on marque une pause un tout petit peu plus tôt que d'habitude parce que nous avons beaucoup à dire sur le Cénacle et tous les événements qui s'y sont déroulés. Nous nous retrouvons donc après cette pause musicale, frère Dominique Marie Cabaret, et nous écoutons l'hymne à la charité composé par le frère André Gouze.
Présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
Les lieux saints au temps de Jésus, c'est le deuxième volet de notre série avec le frère Dominique Marie Cabaret, dominicain et archéologue. Vous nous avez emmené, frère Dominique Marie, sur le Mont Sillon. Vous nous expliquez qu'on montait sur le Mont Sillon parce qu'il fait 800 mètres d'altitude. Je vous propose maintenant d'entrer à proprement parler dans le Cénacle qui est sur ce Mont Sillon. Est-ce que vous pouvez d'abord nous décrire ce lieu emblématique ?
Alors, oui, ce lieu emblématique dans lequel donc les papes, quand ils vont à Jérusalem, célèbrent ont le droit de célébrer la messe, c'est en fait un bâtiment médiéval, d'architecture gothique, qui a été construit par les franciscains enfin, ou par les franciscains, en tout cas, c'est attenant à l'église que les croisés ont construit à cet endroit-là, sur des fondations d'églises byzantines. Alors, avant de vous décrire l'intérieur, donc, il faut bien comprendre qu'il y a eu une grande église byzantine, et on la reconnaît tout à fait, enfin, on reconnaît tout à fait les fondations de cette église avec des pierres qui sont tout à fait caractéristiques, à cet endroit-là. Et l'endroit donc, du Cénacle était vraisemblablement un bâtiment à côté de l'église byzantine. Et cette église byzantine n'a pas survécu. Alors, pour des multiples raisons, parce que donc, le Mont Sion a été englobé dans la ville au 5e siècle, avec la muraille dite de Dossi, mais cette muraille était très grande parce qu'elle elle allait jusqu'à la piscine de Siloé et donc c'était très cher à entretenir. Et quand donc Jérusalem est devenue musulmane, et notamment au cours des siècles, au 10e siècle, eh bien, la grande muraille n'a pas été entretenue et on s'est rabattu sur une muraille qui mettait cette partie du Mont Sion en dehors de la ville. Et du coup, elle était éventuellement susceptible d'être détruite. Et ce qui signifie que sous les croisades, l'église a dû être reconstruite. Et elle a été reconstruite justement alors en décalant un peu l'église, puisque le bâtiment qui était à côté de l'église byzantine a été intégré dans l'église croisée, dans le bas-côté, dans les nefs latérales de l'église croisée. Et donc, pour respecter le principe que donc, tout ça s'était passé dans la chambre haute, comme le dit donc, les évangiles et les actes des apôtres, eh bien, il y avait un plancher au niveau du sol de l'église, et puis un escalier, un étage. Et donc aujourd'hui, quand on visite ce lieu-là, donc au rez-de-chaussée, c'est l'endroit qui est une synagogue où donc est vénéré le tombeau de David, hein, dans une niche qui est sur la gauche. Et quand on monte à l'étage, alors en fait l'escalier n'est pas utilisé parce que justement il y a une séparation entre le lieu saint juif et le lieu saint chrétien.
Oui, on
ne
peut pas passer par le lieu saint
juif. On peut passer, mais il faut avoir les clés et ce n'est pas la foule qui passe par là. Mmh. Et donc ça veut dire qu'on entre par un autre endroit et on aboutit donc dans le Cénacle par une petite porte. Alors si on est très observateur d'ailleurs, quand on passe cette petite porte sur la droite, il y a les vestiges d'une colonne de l'église croisée, de la nef centrale de l'église croisée, parce que donc en fait aujourd'hui il y a des ajouts à droite et à gauche, et ce qui veut dire qu'en fait il y a un plancher dans ce qui était autrefois la nef principale de l'église croisée. Et donc on aboutit dans le Cénacle en venant de la nef principale, de ce qui était la nef principale, et en entrant dans la nef latérale, donc le bas-côté de l'église croisée. Et donc là on est dans une pièce qui est d'ailleurs séparé en deux. Il y a une pièce qui est plus loin, enfin qui est avec un autre escalier, mais donc la pièce qui est accessible au public, c'est la première, avec deux piliers principaux et donc avec des chapiteaux qui sont plutôt remployés, donc des chapiteaux, enfin il y en a qui sont pas remployés, mais enfin bon, de l'époque byzantine, et avec une structure donc qui est complètement croisée, donc à la manière dont on gothique, dont on peut voir dans certaines églises gothiques en Occident, en France ou ailleurs. Et donc en fait voilà, donc ce qui désoriente un peu, parce que il est évident qu'on voit que c'est une pièce qui n'est pas de l'époque de Jésus. Ceci dit, comme je viens de vous le dire, puisque c'est l'emplacement où il y avait cette église byzantine, ou en tout cas il y avait une substructure byzantine, et qu'on a certaines représentations, notamment à l'église de Rome Saint-Prudentiel, donc c'est dans la mosaïque des choses qui vont dans ce sens-là, ou même sur la carte de Madaba. Donc en fait, il y avait ce bâtiment, et donc c'est un lieu que les chrétiens, donc à partir du moment où ils ont eu la liberté de vénérer ce qu'ils voulaient à Jérusalem au IVe siècle, ont authentifié en disant « c'est là que ça s'est passé ». Voilà, et donc ce qui est relativement vraisemblable, puisque donc on a, en tout cas, il y a une autre petite tradition du Cénacle ailleurs pour d'autres confessions chrétiennes. Ceci dit, la tradition catholique là-dessus, enfin, quand je dis catholique, la tradition qui vient donc des pères de l'Église, puisque donc du pèlerin de Bordeaux, etc., font que c'est quand même l'endroit qui est vénéré depuis, au plan catholique depuis le plus longtemps.
Oui, et puis il y a des témoins, puisque le chapiteau de cette pièce est orné d'un pélican.
Oui, alors, voilà. Alors, bon, là, on entre dans l'histoire de l'art. c'est compliqué parce que, donc, vous savez que sans aucun problème, on peut récupérer, par exemple, des colonnes antiques pour faire de la construction croisée.
Oui.
Et donc, en fait, voilà, quand vous avez une colonne de granit, on sait que ce n'est pas les croisés qui ont fait ça. Les croisés, ils étaient plutôt dans le struggle for life, excusez-moi pour l'expression anglaise. Donc, ça veut dire... Et puis, pas l'argent, parce que le granit, vous savez, il n'y a pas de granit à Jérusalem. Donc, il fallait le faire venir soit d'Égypte, soit de Turquie. Donc, en fait, il y a des choses comme ça qui permettent d'être sûr que... il y a des remplois. Et ce qui n'était pas un problème, parce qu'il y avait plein de pièces et que donc... dans l'Antiquité, le remploi de pièces architecturales plus anciennes dans des bâtiments nouveaux ne posait aucun problème
et
manière tout à fait assumée, même chez les Romains, donc même chez l'Arc de Constantin à Rome, remploi des sculptures qui viennent de bâtiments plus anciens. De la grande époque romaine, si on peut dire que ça comme ça.
Alors, dans ce cénacle, il y a eu de nombreux événements, le lavement des pieds et puis la scène tout d'abord.
Oui, alors, dans la tradition, alors même si la tradition de Jérusalem ne relate pas tout à fait ça à propos du cénacle, enfin, de l'emplacement de l'Eucharistie, de la première Eucharistie, mais c'est selon une très grande vraisemblance, donc moi je ne mets pas du tout en doute cela. Et d'abord, ça a été vénéré comme le lieu de la Pentecôte, mais comme c'est la chambre haute, donc traditionnellement c'est la chambre haute, et donc en fait oui, c'est a priori l'emplacement du cénacle, où a eu lieu donc cette institution de l'Eucharistie par Jésus, ce discours d'adieu, cette sortie donc dans la nuit pour aller sortir de la ville, pour aller dans la vallée du Cédron. Et donc, en fait, c'est un moment, donc, en effet, très important pour l'histoire de l'Église. Et d'où le fait que donc, les papes, généralement, quand ils viennent quand je dis généralement, je crois que tous les papes qui sont venus en Terre Sainte ont célébré une Eucharistie à cet endroit-là.
Oui, en tout cas, j'ai une citation effectivement de Benoît XVI voilà, c'était la commémoration du passé, mais aussi une mémoire prophétique, c'est-à-dire l'annonce d'une délivrance future.
Oui, oui, parce qu'en effet, l'institution de l'Eucharistie, faites mémoire, enfin, ceci est mon corps, ceci est mon sang, c'est au présent.
C'est une actualisation.
La phrase est au présent, enfin bon, même si je n'entre pas dans les questions de phrase, enfin du verbe dans quel temps il est, mais ceci dit, c'est au présent, et or, Jésus n'est pas encore mort. Donc ça veut dire qu'en fait, on touche là aussi du doigt, donc un sujet plus théologique, la manière dont la scène va être une réactualisation, donc enfin, résume les trois jours saints qui sont à venir. Enfin, il y en a déjà un qui est commencé, mais donc les deux autres ou les trois autres, ça dépend comment on compte, qui sont à venir. Et et le fait qu'aujourd'hui, quand on célèbre la messe, eh bien, c'est comme une machine à remonter en le temps, en arrière, puisqu'on se retrouve projeté finalement par ces paroles au pied de la croix avec la Vierge Marie et le disciple que Jésus aimait et les saintes femmes. On ne refait pas c'est une réactualisation. Jésus est mort une fois pour toutes.
Oui, alors c'est aussi au Cénacle, donc outre, comme vous l'avez dit, le lavement des pieds, l'institution de l'Eucharistie, l'annonce de la trahison de Judas.
Alors l'annonce de la trahison de Judas, l'annonce de la trahison de Judas, oui, d'accord.
Et l'annonce du reniement de Pierre,
oui,
c'est aussi
oui,
là.
Tout à fait.
Vous parlez du discours d'adieu et de la prière sacerdotale de Jésus.
Oui.
Et puis il y a eu aussi l'apparition de Jésus ressuscité à ses disciples paix soit avec vous.
Voilà, alors ça c'est donc dans la tradition catholique, parce que justement les Syriaques, enfin bon, des autres confessions, j'entre pas dans le détail, peuvent éventuellement dire que ça s'est passé ailleurs, mais il est un fait en effet que il y a bien eu un endroit où les premiers chrétiens se réunissaient et priaient. Et il y a comme une logique que ça soit passé...
dans cette chambre haute, alors.
Voilà, ou en tout cas le même emplacement, parce que s'il y avait une chambre haute, il y avait aussi une salle en bas. Hein.
Oui.
Donc, où on faisait sans doute la cuisine, enfin, oui, ou d'autres choses. Et puis, la cuisine pouvait être faite à l'extérieur, parce que, bon, c'est une autre question, ça. Mais quoi qu'il en soit, donc, oui, il y avait sans doute une maison dont la chambre haute était utilisée, était un lieu qui avait été utilisé. Alors, il faut attention, hein, parce que la chambre haute, a priori, il y a tout lieu de penser que Jésus a mangé ce repas. Au cours d'un repas où ils étaient allongés à la manière romaine, hein, un triclinium. Hein. Justement, la scène de que le disciple de Jésus qui se penche sur
le cœur de Jésus,
sur la poitrine, sur ce côté, se comprend d'autant mieux que s'ils sont justement disposés sur des banquettes, comme un repas comme un repas de cette époque-là avait souvent lieu. Alors, je ne dis pas que tous les repas avaient lieu comme ça, mais on peut penser que c'était de ce type-là. Hein.
Et c'est pas ce que montre l'iconographie la plus classique.
Ah non, parce qu'en effet, on a perdu le sens de l'histoire. Et bon, après, ça, c'est sûr que l'iconographie la plus classique, ça, c'est une autre question. Hein. Donc évidemment, chaque image et chaque icône porte une trace de l'époque à laquelle elle réalisée.
Avec ses habitudes. Oui. Voilà. Et puis enfin, c'est au Cénacle que les disciples se rassemblent dans l'attente de la promesse faite par Jésus, le don de l'Esprit-Saint. Ils sont avec la Vierge Marie.
Oui.
Hein, et donc, le Saint-Esprit descend sur eux tous.
Voilà. Alors, et où a lieu donc, ce moment fondamental dans l'histoire de l'Église de la Pentecôte, qui va faire que les apôtres vont oser sortir au grand jour pour annoncer la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Et en effet, avec ce fait qu'ils avaient peur, hein, ils étaient reclus. Et il y avait de quoi, hein, je ne porte pas du tout condamnation à l'attitude des apôtres. Vu la manière dont Jésus était mort sur la croix... dont il avait été condamné, etc., on pouvait se faire du souci sur la manière dont les autorités jugeaient ceux qui avaient été les disciples en question. Et d'ailleurs, à ce titre-là, sans entrer faire de la moindre polémique, on peut comprendre qu'au pied de la croix, il n'y a eu que le disciple que Jésus aimait, qui était un jeune. Parce que autant les femmes, elles pouvaient être sans problème au pied de la croix, autant...
Elle risquait moins que les hommes.
Évidemment.
Pourquoi?
Parce qu'une femme, à cette époque-là, n'avait pas le même statut. Et elle ne pouvait pas témoigner, etc. Et un homme n'avait autorité qu'à partir de 30 ans.
Ah.
Donc, en fait, ce n'est pas du tout pour minimiser le fait que les femmes étaient au pied de la croix. Mais les apôtres risquaient beaucoup plus s'ils étaient au pied de la croix et qu'ils étaient pris, un peu comme Pierre, justement... à Saint-Pierre en Galicante, selon la tradition, a été reconnu comme par quelqu'un comme le disciple de Jésus. Et donc, si on est reconnu comme le disciple de celui qui est crucifié, on risque beaucoup plus gros que si. Voilà. Et donc là, les femmes étaient beaucoup plus dans l'impunité. C'est pas, encore une fois, pas du tout pour minimiser tout ce qui s'est passé. Hein.
Frère Dominique Marie, qu'est-ce qu'est devenu le Cénacle après la mort de Jésus?
C'est là qu'on manque complètement de sources.
Ouais.
Les sources historiques parlent donc d'église synagogue, de synagogue qui était sur le Mont Sion. Et il est évident que les premiers chrétiens étaient des juifs. Hein. Donc, il n'y avait aucune raison qu'ils ne continuent pas à prier comme des juifs. Alors, aussi, l'autre problème est de savoir qu'est-ce que c'est qu'une synagogue. Et on n'en a pas retrouvé tant que ça. Alors, il y avait des synagogues, c'est clair. Et donc, si c'était une synagogue et que les juifs qui étaient là étaient devenus chrétiens, eh bien, c'est resté une synagogue. Enfin, si c'était un lieu de prière, ça peut devenir une synagogue. Vous voyez, et puis voilà. Il y a sans doute eu une continuité et ça n'a pas forcément été détruit. Alors ensuite, il est un fait qu'en 70, il y a quand même une grosse catastrophe à Jérusalem. Flavius Joseph dit que la ville a été incendiée. Et que donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là par rapport au Cénacle? On n'en sait rien, mais c'est très vraisemblable qu'elle ait été incendiée, que ce bâtiment ait été incendié. Donc après que les chrétiens, en revenant, aient repris possession du lieu ou d'un lieu à côté, etc., ça n'a rien d'invraisemblable. Les chrétiens ont toujours été présents à Jérusalem, donc... sauf cette petite période de quelques années, mais pas suffisamment longue pour effacer les mémoires complètement. Et donc, en fait, après que les chrétiens aient voulu vénérer cet endroit, notamment à cause de la Pentecôte, etc., etc., c'est selon une très, très grande vraisemblance. Ils ne pouvaient pas vénérer, ça ce qui était certain, l'emplacement de la mort et de la résurrection, puisque donc, dès 130... Donc, c'est devenu le forum de la colonie romaine. Et donc, avec un temple. Et donc, là, ils n'avaient pas du tout la liberté de faire ce qu'ils voulaient, même s'ils pouvaient y aller en tant que forum, mais ils n'avaient pas la liberté de construire un bâtiment. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu cette tradition que sur le Mont Sion, c'est la mère de toutes les églises. Donc la première église synagogue qui après a été transformée dans cette église des apôtres, donc à la fin du IVe siècle, et dans laquelle étaient conservées donc les principales reliques chrétiennes, et en tout cas étaient conservées donc aussi le trône de Saint Jacques, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois. Et donc en fait voilà. Et ce qui se dit c'est resté la cathédrale de Jérusalem, bien qu'on ait eu construit après le Saint-Sépulcre. Ça ne veut pas dire que le Saint-Sépulcre n'a pas pris une importance plus grande. Voilà. Il est un fait que le Mont Sion est toujours resté un lieu important. Je vais juste vous citer un exemple. Quand les reliques de Saint-Étienne ont été retrouvées au début du 5e siècle, où étaient-elles mises en premier au Diaconicon, donc l'emplacement où on conservait les choses les plus précieuses, du Mont Sion.
Donc au Cénacle, alors.
Oui, c'est ça, au Cénacle, et pas au Saint-Sépulcre.
D'accord.
Et donc ça restait le lieu le plus authentique, si je peux dire, le plus ancien, le plus, de prière de la communauté chrétienne de Jérusalem.
Et aujourd'hui, vous dites que les papes célèbrent lors de leur visite, de leur pèlerinage à Jérusalem, ils célèbrent la messe au Cénacle. Maintenant, l'accès est libre. Il faut juste passer à l'extérieur pour ne pas traverser.
L'accès est libre. Il y a des moments où c'est fermé. Et le patriarcat latin de Jérusalem actuel aimerait qu'on puisse y dire la messe tous les jours, mais ce n'est pas le cas. Donc pourquoi ? Parce que ce sont les autorités israéliennes qui gèrent l'endroit, cette demande existe et n'a pas été encore donnée. Donc ce qui signifie que les chrétiens peuvent prier certains jours de l'année, notamment les vêpres de la Pentecôte, et donc aussi quand il y a la venue d'un pape, il y a donc a priori la possibilité d'y célébrer la messe.
D'accord, mais pendant le temps pascal. En tout cas, pendant cette semaine sainte, il n'y a pas d'autorisation qui est donnée pour célébrer.
Non, pas spécialement. Alors après, je suis pas je connais pas exactement toutes les cérémonies qui sont autorisées. Il faudrait demander aux franciscains qui sont donc les gardiens des lieux saints. Mais je sais qu'il y a au moins la Pentecôte. Ceci dit, la Pentecôte est célébrée d'une manière très solennelle dans l'église de la Dormition des bénédictins. Donc c'est là que je ne sais pas s'il l'a fait cette année ou il va le faire cette année. C'est là que, a priori, l'évêque de Jérusalem latin donne la confirmation à un certain nombre de personnes dans l'église bénédictine qui est juste à côté, mais qui en fait cette église bénédictine, elle est sur l'emplacement aussi des églises byzantines et croisées, dans les sous-sols de l'église de l'abbaye de la Dormition, qui est un bâtiment donc récent, enfin quand je dis récent, qui a déjà un siècle, etc. Mais on a retrouvé les ruines, les fondations des églises byzantines et croisées. Mais comme c'était une grande église, et que aujourd'hui c'est distant d'environ 30 mètres entre le Cénacle Mais il y a une rue au milieu.
D'accord.
Parce que donc,
ouais,
tout ça, ça a été détruit. Et donc, l'église de la Dormition est de l'autre côté. Mais à l'autre bout de l'église, ce qui autrefois était le bout de l'église.
Ah oui, oui, c'est ça. C'était le même édifice. Merci beaucoup, frère Dominique-Marie Cabaret.
Il n'y a pas de quoi.
Vous nous avez conduits au Mont-Sillon et au Cénacle. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour nous conduire au Golgotha et au tombeau de Jésus au Saint-Sépulcre. C'était votre émission Vivante Église. Merci de l'avoir suivie.